Mes sœurs, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
Chers amis de Radio Maria, bonjour.
Et bonjour.
La nature en ce mois de mars se réveille, malgré la tempête de ce jour. Les prémices du printemps sont visibles dans notre belle région provençale. Les oiseaux chantent, les bourgeons éclatent, dans les jardins, les jonquilles, les narcisses fleurissent. Les tulipes montent en bouton, tandis que les vergers promettent de belles récoltes. Oui, tout chante et crie de joie, comme le dit le psaume. Mais la pluie féconde la terre et la fait germer. Mars, c'est l'annonce et l'arrivée du printemps. Cette année, mars est le mois de la célébration de Pâques, le sommet de notre vie chrétienne. Nous montons à Jérusalem en Église pour vivre le mystère et nous laisser renouveler par le salut offert. La montée est parfois rude, aride. Aussi, nous apprécions les pauses liturgiques ménagées par le calendrier.
Alors cette année, la précocité de Pâques a fait reporter la fête liturgique de l'Annonciation, habituellement célébrée le 25 mars, 9 mois avant le jour de Noël, au 8 avril, donc dans un mois. Nous pourrons honorer Marie, la mère de notre Sauveur, dans la joie pascale et chanter les Alléluia. Vive Dieu en action de grâce pour ce chemin de foi que Marie aura initié lors de la visite de l'ange Gabriel et poursuivi jusqu'au calvaire et au-delà dans l'allégresse de la résurrection de Jésus. Par contre, traditionnellement honoré le mercredi et surtout au cours du mois de mars qui lui est consacré, Saint Joseph, lui, va être fêté en Église le 19 mars. Quelques jours juste avant l'entrée dans la Semaine Sainte. Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu de choses sur lui, mais bien suffisamment pour faire comprendre quel genre de père, quel genre d'homme et quel genre d'époux il a pu être et aussi quelle mission lui a confié la Providence. C'est donc Saint Joseph que nous vous proposons de contempler ensemble aujourd'hui. Et d'essayer de voir comment il peut, par sa vie humble, ouverte à l'imprévu de Dieu, proche de Marie puisqu'il l'a épousée, homme juste selon la loi de Moïse, père adoptif de Jésus, fils de Dieu et fils de Marie, qui a mission d'éduquer, eh bien comment Joseph peut rejoindre en profondeur le cœur des hommes d'aujourd'hui dans leur vie d'homme, d'époux et de père. Car au cœur de nos maternités, nous ne voyons pas que des mamans, nous voyons aussi des hommes, des époux et des pères.
Profitons de ce temps privilégié du carême pour faire silence et accueillir au fond de nos cœurs ce que la vie de Saint Joseph peut apporter d'éléments de réflexion à notre société en ce premier quart du XXIe siècle et pas seulement aux hommes. Nous en sommes témoins, la société moderne fonctionne avec la science, la technique, l'univers du numérique. Nous baignons dans un monde frénétique où l'accent est mis sur le faire. Il n'est pas rare de constater dans les rencontres que l'homme d'aujourd'hui cherche à se réaliser et cherche son épanouissement personnel davantage dans ce qu'il fait que dans ce qu'il est. En effet, l'homme se pense et est pensé comme un être destiné à faire et à produire pour avoir et pour posséder. Réussir, c'est gagner de l'argent, si possible, toujours plus. Vous avez en mémoire certainement le slogan du président de la République, « Travailler plus pour gagner plus ». Gagner aux dépens de l'autre. Gagner à la concurrence. Réussir, c'est gagner, être le plus fort, dominer. Mais cet état d'esprit montre ses limites. Pour réussir professionnellement, on en vient à négliger parfois la famille, la santé, l'amour, les relations. Et lorsque, à la fin, on réussit, on se trouve insatisfait et malheureux.
C'est que le travail peut déshumaniser par le poids de la répétitivité, le poids de l'inertie, le poids des contraintes de déplacement, le poids de l'insignifiance. Pourquoi tant de fatigue? À qui profite-t-elle quand on a du mal à joindre les deux bouts? C'est là que c'est important de nous rappeler qu'il faut humaniser. Humaniser le travail, humaniser les gestes quotidiens, car nous ne sommes pas des robots. Il est important de retrouver cette vocation de l'homme. Notre société, centrée sur le faire, sans aucune perspective de vie éternelle, peine à donner du sens à l'action, un sens autre que le gain, un sens qui touche son esprit. Le gratuit, le don de soi, humble et gratuit, la joie de participer à quelque chose de grand, de beau, ne trouve plus de place. La course insensée au faire a provoqué des fissures dans le système social. L'hyperactivité professionnelle, les nouvelles techniques ont éloigné les personnes d'une vie relationnelle et affective gratuite et épanouie. On créait des tensions dans les familles. On poussait à des relations professionnelles féroces et surtout, on dévoilait que le faire et l'avoir ne sont pas le sens de la vie. C'est ce qu'analyse le nouveau cardinal François Bustillo. Il constate combien ces conditions de vie fragilisent l'homme dans sa santé, dans son affectivité et dans sa vie spirituelle aussi. La psychologie du monde du travail parle également d'une désorganisation de la vie professionnelle, provoquant des ruptures internes à cause de burn-out. Alors oui, la législation du travail cherche à corriger ces dérives en imposant des normes pour un bien-être au travail. Mais nous voici encore dans du matériel, du confort, qui sont nécessaires certes, mais insuffisants. C'est que nous ne sommes pas seulement des êtres corporels, mais nous sommes aussi doués d'un esprit, ce que semblent ignorer nos sociétés matérialistes et conformistes. Par exemple, demandez à un terrassier ce qu'il fait, il creuse un trou. Mais s'il a conscience de ce à quoi va servir ce travail, ce trou, et qu'il sait par exemple contribuer à la construction d'une cathédrale, tout est différent. Les ouvriers de toute spécialité qui travaillent à la reconstruction de Notre-Dame de Paris donnent le meilleur d'eux-mêmes. Leur travail dur, les risques pris, les contraintes du calendrier ont un sens. Leur travail a un sens, rebâtir Notre-Dame.
Notre société est aussi en quête de liberté. Faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, sans avoir de compte à rendre à personne. Chercher son propre épanouissement personnel sans s'inquiéter de l'autre qui est en face. En quête de liberté, elle est aussi assoiffée de bonheur. Elle le cherche, mais la recherche est ardue. De nombreuses pistes expérimentées s'avèrent être des impasses. Elles ne comblent pas le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Nous sommes habitués au clic qui ouvre en un instant la page désirée sur le web. Nous sommes marqués par l'impatience et mal préparés pour vivre la frustration, la persévérance dans la durée. En fait, la peur nous paralyse. Nous vivons un peu dans l'illusion qu'on peut effacer et recommencer ce qui s'est soldé par un échec. Alors, on s'installe dans l'éphémère, on ne s'engage pas. On est trop jeune, me disait il y a quelques jours un futur papa de 35 ans. Trop jeune pour se marier, on verra si ça va. Éloignés de Dieu par des philosophies et des idéologies dites modernes, nous avons oublié le sens du travail voulu par Dieu dès le commencement.
En effet, dès le commencement, nous voyons que notre Dieu et Père créateur est un Dieu ami des hommes. Et il fait confiance à l'homme qu'il a créé à son image et ressemblance, il l'associe à sa mission créatrice et il lui confie le soin de la vie sous toutes ses formes. La Genèse nous raconte que Dieu bénit l'homme et lui confie la mission de faire croître dans le monde comme un bon jardinier cultive son jardin et lui fait porter des fruits. Et l'homme reçoit de Dieu l'autorité sur la création. Vous savez ce que signifie le mot autorité? Il veut dire faire croître, faire grandir. On voit à travers là vraiment cette belle vocation de l'homme. Et pour permettre une bonne croissance, il faut des tuteurs aux jeunes arbres, afin qu'ils ne se courbent pas en raison des vents dominants, comme aujourd'hui, et qu'ils soient protégés au moins pendant un temps. Bien, ce rôle de tuteur, c'est le rôle de la loi instaurée dans le jardin d'Éden. En bon pédagogue, Dieu dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Par cette parole, l'homme reçoit une nouvelle mission, celle d'être gardien de la loi. Dans ce jardin du bonheur, il n'est pas bon aussi que l'homme soit seul. Dieu va créer les êtres vivants, va les placer devant l'homme, en lui donnant la mission de nommer chacun. Voilà encore une de ses vocations. Autrement dit, Dieu fait participer l'homme de façon étroite à sa puissance créatrice, puisqu'il lui donne la capacité de connaître chaque être au point de la nommer, c'est-à-dire au point de saisir leur identité propre. C'est une grâce paternelle, participation de la paternité de Dieu. Dieu a regardé sa création et il continue de nous regarder. Et c'est son regard d'amour sans cesse posé sur nous qui nous fait exister. Il connaît chacun d'entre nous par notre nom, notre prénom, celui que nos parents ont choisi pour nous. Et ses vocations de gardien de la loi, d'autorité, de nommé, Saint Joseph va les vivre. Et les papas que l'on voit aujourd'hui dans nos maternités les vivent, bien souvent sans le savoir.
Mais nous le savons, l'homme ne trouve pas parmi les animaux l'aide dont il a besoin pour entrer en relation. Adam ne peut pas vraiment exister en tant qu'homme parce que fait pour l'amour donné et reçu, pour un dialogue d'amour, pour une vie de communion, il n'y a personne à aimer. Alors Dieu intervient. Plongeant Adam dans un sommeil profond et mystérieux, il prend de la substance de l'homme pour lui façonner une aide que l'homme reconnaîtra comme l'os de ses os et qu'il appellera femme, avant de la nommer Ève, parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. Là voici la femme devant l'homme, égale à lui, aide indispensable pour pouvoir vivre. Aide, direz-vous. Oui, donnons à ce mot le sens que lui donnent les psaumes. Une aide comme la main de Dieu pour venir au secours de l'homme, mais certainement pas comme sa domestique. La femme est celle qui va permettre à l'homme de continuer à vivre. La femme introduit l'homme au mystère de Dieu, Dieu d'amour et de vie. Elle est sentinelle de l'invisible et gardienne de la vie. Nous y retrouvons cette vérité fondamentale de la différence entre l'homme et la femme. Mais heureuse différence qui nous rend complémentaires. Si nous gommons les différences, nous empêchons l'altérité et donc nous empêchons la relation. Il est fondamental aujourd'hui de redécouvrir l'évangile de la différence à l'opposé de ce que nous vendent les théories du genre et du wokisme. L'homme et la femme ont reçu des charismes différents, inscrits dans leur corps, dans leur cœur, dans leur être tout entier. Sans tomber dans les caricatures, les neurosciences nous prouvent aujourd'hui combien le cerveau d'un petit garçon est déjà modelé d'une façon particulière dès sa vie in utero, différemment de celui d'une petite fille. Ces maturations ne cesseront de se diversifier, notamment au moment de la puberté. Saint Joseph, qui reçoit Marie comme une aide, à l'image d'Adam qui reçoit Ève, peut nous aider à accepter la réalité des choses en les voyant comme une volonté de Dieu, donc un cadeau de Dieu. C'est tout ce regard d'émerveillement qu'il nous faut retrouver et qu'il nous faut transmettre aux jeunes générations en quête d'identité vraie.
Oui, il est vrai. Qu'avons-nous fait de cette révélation, de cette beauté de l'évangile, de la vie? Il semble que nous préférons plutôt boire l'eau des citernes plutôt que celle de la source de la vie, comme dénonçait le prophète. Mais à travers toutes nos rencontres dans nos maternités, nous nous rendons compte que non. Beaucoup de personnes, finalement, entendent la voix de leur conscience, de leur nature, et cherchent, au contraire, à retrouver ce sens de la vie, ce sens de leur identité, ce sens des différences entre l'homme et la femme, cette complémentarité. Dans une des précédentes rencontres, nous évoquions ce jeune couple qui participait à la préparation humaine et spirituelle à la naissance. Surpris d'attendre si vite un enfant après leur mariage, le futur papa disait se mettre à l'écoute et sous la protection de Saint Joseph. Alors, que peut nous apporter la contemplation de Saint Joseph? L'Écriture nous dit qu'il était un homme juste. Qu'est-ce à dire? Joseph avait médité depuis son enfance sur la sagesse de Dieu qu'il craignait et aimait. Il connaissait les Écritures et attendait la venue du Messie, promis et annoncé par les prophètes. Joseph était toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans la loi. C'était un homme droit. Dieu a trouvé son cœur disponible à sa grâce et il en a fait le dépositaire du mystère tenu caché depuis des siècles. C'est à travers des songes que Dieu a manifesté à Joseph sa volonté. 4 songes dont saint Matthieu se fait l'écho dans l'Évangile. Or, Joseph, humble charpentier, était promis en mariage à Marie. Mais avant qu'ils eussent mené vie commune, Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. L'Évangile poursuit et nous dit que Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et Joseph épouse Marie. Joseph, voilà, est un homme juste et donc cette justesse va l'aider à vivre sa vocation d'époux. Et par là, il peut être un vrai témoin, un vrai ami pour tous les époux de notre temps. Il peut les éclairer. Il a eu ce courage de prendre Marie chez lui alors qu'il pensait devoir la répudier en secret. Ce courage nous fait penser à tous ces hommes qui reculent aujourd'hui face à l'annonce d'une grossesse. Nous ne sommes pas là pour les juger personnellement, on ne sait pas ce qu'ils ont pu vivre avant, mais quelle détresse devant toutes ces mamans qui viennent s'inscrire à la maternité ou qui nous annoncent que le papa est parti pendant la grossesse. Comment pouvons-nous aider ces hommes à prendre leurs responsabilités, à ne pas avoir peur de prendre leur femme chez eux avec cet enfant qui arrive? Là aussi, notre société a ses responsabilités. Comment aider les hommes à pouvoir être des époux justes, des époux responsables? Un féminisme à outrance peut pousser les femmes à être de plus en plus autonomes et fortes afin de pouvoir s'en sortir toutes seules au cas où si l'homme n'assume pas ses responsabilités. Mais plus les femmes sont fortes, plus les hommes peuvent avoir peur finalement d'être à leur place et peuvent avoir du mal aussi à trouver leur place. D'où l'importance vraiment de demander à Saint Joseph de redécouvrir cet évangile de la complémentarité dans le couple, où l'homme et la femme chacun ont leur place, où l'homme et la femme sont chacun une aide l'un pour l'autre. L'histoire de Marie et de Joseph nous raconte ensuite que juste après que Joseph ait pris Marie chez lui, le couple va être jeté sur les routes pour se rendre à Bethléem, cité de David, pour le recensement ordonné par César Auguste. Et c'est alors que le temps de la naissance arrive à son terme. On peut imaginer sans peine le souci de Joseph qui voit naître l'enfant dans une étable, parce qu'il n'y a pas de place pour eux parmi les habitations, pas de place pour eux dans les cœurs. Là aussi, combien de papas voyons-nous un peu tout déboussolés, tout stressés, parce qu'ils n'ont pas fini de peindre la chambre, qu'il n'a pas encore monté le cosy, et pourtant ce sont peut-être des petits détails matériels. Mais quand la naissance arrive, les papas sont souvent bousculés. Et voilà, ce pauvre Joseph qui va devoir assumer cette naissance à Bethléem alors qu'il n'y a pas de place pour Marie. Mais là encore, il va faire preuve de courage et de responsabilité. Et nous rendons grâce dans nos cœurs de petites sœurs, dans nos prières, pour tous ces pères qui se dépensent sans compter pour leur famille, notamment au moment des épreuves, au moment de la naissance, de l'accueil d'un enfant. Combien de dons de soi cachés, combien de services rendus, combien d'abnégation également. C'est peut-être leur manière à eux aussi d'accoucher, de participer à la naissance de leur enfant. Et par cette naissance, ils deviennent pères.
Joseph a eu le courage d'assumer la paternité légale de l'enfant né de Marie. C'est lui qui lui donne le nom de Jésus, ce nom révélé par l'ange. Nous nous souvenons que donner un nom à une personne ou à une chose signifie d'une certaine manière marquer son appartenance. Jésus appartient humainement à la famille de Joseph, et Joseph est descendant de David. Jésus, son fils, est donc fils de David. Le père a la belle mission de donner une identité à l'enfant. Cela est capital. En effet, pendant la grossesse et pendant les premiers mois, l'enfant vit une relation fusionnelle avec sa maman qui se prolonge pendant tout le temps de l'allaitement, par exemple. La place du père est alors fondamentale pour ouvrir cette relation aider le tout petit à prendre conscience que sa maman n'est pas lui et que lui n'est pas sa maman. C'est tout le symbolisme du fait que nous proposons au papa de couper le cordon dès la salle de naissance. Ceci est nécessaire. Cette prise de conscience, mal ou non vécue, peut engendrer chez l'enfant, par la suite, des angoisses de séparation, d'abandon. Le père, par sa présence et ses actes, va montrer à l'enfant qu'il a une identité propre en dehors de sa mère. Et il est important que la maman laisse ce rôle au papa et le soutienne dans sa mission. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident pour une maman de laisser un tout petit dans les bras de son papa. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est très drôle parfois. Cité par le pape François, nous savons que le pape Saint Paul VI a estimé que la paternité de Joseph s'est manifestée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice, dans le sens de faire du sacré, au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait dans la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail. Il a mis toutes ses capacités d'amour au service du Messie, ce Messie qui a germé dans sa maison. Rien d'étonnant donc à ce que Joseph ait toujours été aimé et vénéré par le peuple chrétien. Avec quelle tendresse Joseph n'a-t-il pas encouragé les premiers pas de Jésus, ayant dans le cœur les paroles du psaume, comme la tendresse d'un père pour un fils, ainsi la tendresse du Seigneur pour qui le craint, que ce soit cette phrase prise dans le psaume 103 ou dans le livre d'Osée. L'avenir est à la tendresse. Peut-être avez-vous connu ce livre. L'avenir est à la tendresse de ce livre de Stan Rougier. Les jeunes interpellent le monde. Les jeunes redoutent de vivre dans la médiocrité qu'ils croient voir dans trop de vies d'adultes, dit l'auteur. Lorsqu'ils entendent de grandes voix qui s'adressent à leur part divine et qui savent les entraîner vers les grandes causes, alors on assiste à la plus superbe des métamorphoses. La tendresse, en fait, est le meilleur moyen de toucher en l'être humain ce qui est fragile.
Alors, après avoir vu comment Joseph peut éclairer cette vocation d'homme, d'époux et de père qui nomme et ce père qui est tendre, Joseph nous donne aussi une image d'un père dans l'obéissance. Une obéissance toute simple, sans discussion. Devant la grossesse de Marie, il réfléchit, il ne veut pas l'accuser publiquement, il décide de la renvoyer. Et voilà que Dieu va venir contrarier son projet. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Et Joseph va avoir foi dans les paroles qui lui sont dites au fond du cœur et il obéit. Il fit ce que l'ange lui avait prescrit, nous dit l'évangile de saint Matthieu. Joseph a vu Jésus s'éveiller à la vie, grandir en sagesse et en taille. Image du père auprès du fils bien-aimé, Joseph a eu à cœur de protéger l'enfant des dangers menaçant sa vie dès l'enfance. Vous vous rappelez, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Là encore, obéissant à un nouveau songe, Jésus fuit en Égypte, jusqu'à ce que l'ange de nouveau le visite de nuit et le rappelle en Galilée. Et là encore, obéissant et confiant, Joseph se remet en route et revient à Nazareth avec Marie et Jésus. À nouveau, il abandonne tout ce qu'il a mis en place pour assurer la sécurité et le bien-être de Marie et de Jésus, et il se lève et il part. C'est très beau de voir cette obéissance de Joseph à Dieu qui est Père. Pour Jésus, cela a été un beau témoignage. Et pour les familles d'aujourd'hui, pour un enfant, voir son père obéir à Dieu, quel témoignage de foi, quel témoignage de sainteté. Ainsi, Saint Joseph peut vraiment aider les pères et les hommes de façon générale à être au service aussi de la loi et de l'obéissance. Non seulement en obéissant eux-mêmes à Dieu, mais aussi en éduquant leurs enfants à apprendre aussi à obéir. et ça dans tout leur comportement. Nous l'avons vu dans le texte de la Genèse, l'homme est gardien de la loi et le père doit être justement avoir ce rôle de rappeler la loi. Et ce rôle n'est pas facile, mais si important. Si un enfant est laissé à lui-même sans limite, sans aucun cadre, sans aucun apprentissage de l'obéissance, il ne va pas grandir en vertu, ni se sentir en sécurité. Et au final, il deviendra un petit tyran. Les dégâts observés depuis 1968 sont malheureusement évidents. Vous vous rappelez le slogan de l'époque « Il est interdit d'interdire ». Il nous paraît vraiment urgent aujourd'hui de réapprendre aux parents à savoir dire non aux enfants, sans avoir peur de brimer leur personnalité ou leur liberté. Et c'est peut-être un charisme propre aux parents, aux papas. Et cette urgence, nous la voyons vraiment dans nos maternités où on voit combien de papas ont du mal à dire non aux aînés quand ils viennent voir le petit frère ou la petite sœur qui viennent de naître. C'est vraiment important qu'ils puissent redécouvrir l'importance de ce rôle. Car c'est le cadre qui permettra de grandir en liberté et dans le respect des autres, en apprenant à gérer la frustration et les relations avec l'entourage.
À Nazareth, Joseph s'établit comme charpentier. Son travail assure la subsistance de la Sainte Famille. Jésus apprend de Joseph à accueillir et accomplir la volonté de Dieu, et cela pénètre si profond dans son cœur qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il est retrouvé au milieu des docteurs à Jérusalem après 3 jours de recherche par ses parents, Jésus répondra à l'angoisse manifestée par Marie, sa mère, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Ces paroles, nous dit l'Évangile, ne sont pas comprises par Marie et Joseph, mais elles pénètrent leur cœur au plus profond, là où elles peuvent être méditées et finir par trouver un sens. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est bien souvent la déception et la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Commente le pape François qui ajoute « C'est seulement par cet accueil et par cette réconciliation qu'on peut entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas facile. Sans la grâce. Nous pouvons constater combien notre monde sans Dieu résiste et répond avec violence à tout ce qui semble le contrarier. La foi de Joseph affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive. Il fait place en lui à l'imprévu de Dieu. Il en assume personnellement la responsabilité en mettant son courage et sa créativité au service de son obéissance. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire du salut. Joseph, par son obéissance et son courage, protège Marie et l'enfant. Nombreuses sont les familles qui demandent une bénédiction, une protection pour l'enfant qui vient de naître. Cette bénédiction, ce temps de prière, peut se faire dans la chambre, parfois dès la salle de naissance, mais le plus souvent à la chapelle, au cours de l'office des vêpres, célébré avec la communauté des petites sœurs, ou juste avant de quitter la maternité en faisant un détour par la chapelle. Père et mère se sentent souvent tout petits devant le mystère de la vie et la mission de parents qu'ils commencent à découvrir concrètement avec l'arrivée de leur enfant. Je garde en mémoire ce jeune papa que j'ai retrouvé à genoux dans la salle de naissance, soulevant délicatement la couverture qui tenait chaud à son enfant et pour le contempler. Voilà, le congé paternité, porté à 25 jours depuis le 1er juillet 2021 et porté à 32 jours en cas de naissance multiple, est vraiment bénéfique pour la famille en construction. Le partage des tâches resserre les liens entre les parents. Il est souhaitable que le couple puisse s'accorder un petit temps d'intimité, de complicité régulièrement. Et pourquoi pas à l'initiative du jeune papa? Joseph, un père travailleur, il n'a pas échappé à la loi du travail. De plus, Joseph, qui était charpentier, a non seulement travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de la Sainte Famille, mais il a appris à Jésus, par son exemple, la valeur, la dignité, la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.
Oui, le pape François souligne combien il est nécessaire qu'en ce 21e siècle, nous puissions de nouveau comprendre avec une conscience renouvelée la signification du travail et qui donne la dignité, et dont Saint Joseph en est le patron exemplaire. Le travail devient participation à l'œuvre même du salut. Il rend gloire à Dieu notre Père et Créateur en développant les qualités personnelles et en les mettant au service de la société. C'est aussi une occasion de réalisation, non seulement pour soi-même, mais surtout pour ce noyau original de la société qu'est la famille. Nous savons combien le chômage a blessé les familles, notamment dans le Nord, par exemple lors de la fermeture des mines, des grandes usines de métallurgie. On a aussi expérimenté récemment avec la pandémie du Covid les épreuves subies par les familles par ce manque de travail, ou au contraire une surcharge de travail dans des conditions difficiles. Nous l'avons évoqué aussi, il importe de donner du sens à notre travail, et la crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter vraiment pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner une nouvelle naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Et là encore, le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. Jésus, en effet, a aidé Saint Joseph dans son atelier. Il a vécu cette vie pendant 30 ans. Il nous appartient donc de faire preuve de créativité pour offrir à tous ce travail qui assure la dignité de tout homme. Dieu a confié son propre fils à Joseph, un homme dont l'Écriture ne rapporte finalement aucune parole, aucun miracle. Mais Joseph était un homme ajusté à Dieu, un simple charpentier, un vrai pauvre selon le cœur de Dieu. Et là, nous pouvons admirer une autre qualité de Joseph, c'est son humilité. Humilité, transparence de l'ego qui laisse passer la lumière du salut et donne au moi sa véritable densité, écrivait Clotilde Hamon dans Famille chrétienne en méditant sur Saint Joseph, lors de l'apparition de la lettre du pape François, Patrice Corday. En donnant à Saint Joseph le titre de père dans l'ombre, le pape François fait référence au livre de l'écrivain polonais Jan Dobraczynski, qui voit en Joseph l'ombre du père pour Jésus. La paternité de Dieu, en effet, est un thème qui parcourt toutes les Écritures et Dieu soutient son peuple dans la traversée du désert comme un homme soutient son enfant. Dieu apprend à marcher à Israël. Dieu corrige son peuple comme un père son enfant. De même qu'il nous est dit « Soyez parfaits comme votre père est parfait », il pourrait nous être dit « Soyez père comme je suis père ». Et c'est ce que Saint Joseph a essayé de vivre avec humilité.
C'est du même coup admettre que l'on ne naît pas père, mais qu'on le devient, tout comme on ne naît pas saint, mais qu'on est appelé à le devenir de grâce en grâce sur le chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Qu'est-ce à dire? Il ne suffit pas d'engendrer un enfant, il ne suffit pas de le mettre au monde. Le père est celui qui prend soin de lui de manière responsable, qui introduit et accompagne l'enfant dans le quotidien de la vie, celui qui l'ouvre à la réalité, l'éduque et lui donne les clés qui l'aideront à devenir à son tour capable de choix, de liberté, de départ. C'est le drame de notre société postmoderne qui vit sans mémoire, qui veut se construire toute seule, sans racines. Les pères d'aujourd'hui ont oublié qu'ils ont été des enfants avant et qu'ils ont reçu eux aussi, mais ce qui est ancien a peu de valeur à leurs yeux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à des générations qui n'ont rien reçu comme transmission. Ce n'est pas seulement une perte culturelle, mais c'est une perte identitaire qui provoque un malaise vrai et une recherche d'identité chez les jeunes générations. Un retour aux sources, serait nécessaire, mais il faut qu'il la trouve, cette source. La liturgie de ce dernier dimanche de carême, le troisième, nous donnait à accueillir et méditer sur la figure du Père prodigue. Quelle merveille! Savoir que Dieu notre Père est toujours sur le pas de sa porte pour accueillir et serrer dans ses bras son enfant, quoi qu'il ait fait loin de la famille. Oui, être Père, c'est représenter Dieu auprès de son enfant. C'est une grâce que demande le célébrant d'un baptême en bénissant les parents du petit baptisé avant de leur dire « Allez, dans la paix du Christ ». On peut imaginer l'émerveillement de Joseph devant le fils de Marie, fils de Dieu. Jamais Joseph ne s'est mis au centre de la relation. Mais sa joie était de se donner pour prouver son amour envers Marie, pour prouver son amour envers Jésus. Se donner. L'homme ne se trouve que dans le don de soi, nous rappelle le Concile Vatican II. Se donner, refuser tout autoritarisme, toute possession de l'autre, toute violence. Un vrai chemin sur lequel les chutes et le relèvement nous acheminent vers l'accomplissement de la mission confiée par Dieu.
Nous pouvons vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette figure de Saint Joseph que nous avons pu suivre à travers sa vocation d'homme, d'époux, de père, dans l'obéissance, dans la tendresse, dans l'humilité. Et ce qui nous fait conclure que dans ce monde aujourd'hui sans repère, il faut des pères. Nous pouvons vraiment confier à Saint Joseph tous les pères d'aujourd'hui et les pères de demain, afin qu'ils aient la grâce de vivre leur paternité avec foi, espérance et charité.
Confions aussi nos propres pères, qu'ils soient en vie ou déjà près du Père éternel. Nous pouvons prendre un temps pour les remercier de ce qu'ils ont été pour nous sur le chemin, notre chemin personnel, leur pardonner leurs manquements, leurs faiblesses. Personne n'est parfait.
Confions aussi à Saint Joseph tous les hommes en général, afin qu'ils trouvent en lui un modèle de tendresse, d'obéissance, de protection, de travailleur, de foi, de confiance aussi face à l'imprévu.
Confions-lui aussi toutes les familles, particulièrement celles qui traversent des épreuves, comme la Sainte Famille.
Enfin, confions-lui notre Église, afin qu'elle continue sa mission de révéler le visage de Dieu Père, qui aime tous ses enfants, et leur envoie des saints pour les guider durant leur pèlerinage terrestre. Et pour ce faire, nous vous proposons de finir avec la prière du « Je vous salue, Joseph ».
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Alors, chers auditeurs de Radio Maria, nous pensions aussi confier dans notre prière avec vous à Saint Joseph, à notre pays, la France. Voilà, dans ce contexte qu'elle vit aujourd'hui, de si particulier avec cette constitutionnalisation de l'IVG. Bien sûr, nous ne jugeons pas les personnes et derrière cet avortement volontaire, il y a combien de situations de souffrance, de drame. Mais ce que nous remarquons dans ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les articles de presse, c'est qu'on parle beaucoup de la femme et c'est heureux, aujourd'hui c'est la journée des droits de la femme. Mais combien de fois avons-nous parlé du père ? Sans parler non plus de l'enfant, qui est bien souvent oublié dans cette histoire. Et nous sommes témoins, nous, dans nos maternités, de papas, qui en fait ont pu vivre de façon très douloureuse l'avortement de leur enfant. Certains étaient au courant et se sentaient acculés à ce choix, n'ayant pas les moyens matériels d'accueillir cet enfant, n'ayant peut-être pas de maison, de travail, et l'avortement leur est paru la seule solution possible, tellement conseillé et uniquement proposé par certaines personnes. Mais aussi, nous avons croisé des pères qui auraient souhaité accueillir cet enfant. Mais finalement, leur voix n'avait pas de place leur choix n'était pas pris en compte. Et c'est peut-être une interrogation que nous osons porter sur cette antenne aujourd'hui. Si la femme a des droits, si elle est bien sûr son corps fait partie d'elle-même, est-ce que ce petit enfant ne lui appartient qu'à elle? Est-ce que ce petit enfant est le corps de la femme? C'est tout le mystère de la femme de porter un autre qu'elle, et ça fait partie de sa vocation, et c'est une vocation si pleine de responsabilités et de sacrifices, on en est consciente. Mais cet enfant est le fruit de l'amour de deux personnes, de la femme et de l'homme. Et souvent, voilà, nous sommes vraiment très peinés devant ces hommes qui n'ont pas pu être pères, qui n'ont pas eu le choix d'être pères, qui n'ont pas pu connaître cet enfant qui pourtant était leur enfant également. Donc nous voulons vraiment leur rendre hommage et les confier aussi à Saint-Joseph pour qu'ils puissent faire un parcours aussi de guérison, peut-être de pardon. Nous avons contribué à la création d'Agapa, qui est une antenne qui accompagne les couples dans le deuil périnatal. Et il n'y a pas que des femmes qui font ce parcours de deuil périnatal. Beaucoup de papas sont vraiment sensibles aussi. Que ce soit un enfant perdu par une IVG ou par une mort in utero, une maladie, un handicap. Les hommes sont déjà pères des fois même pendant la grossesse. Et ils ont aussi un chemin de deuil à faire. Ils ont aussi des choses à dire, des choses à nous faire comprendre, à toucher du doigt. Et voilà, on parle beaucoup de la femme et c'est important. Mais n'oublions pas de parler aussi de ses pères. De ces pères dans l'ombre qui ont besoin de pouvoir aussi vivre tout un chemin de guérison. Et nous pouvons aussi confier à Saint-Joseph tous les pères qui ont peut-être légitimement poussé à l'avortement, qui étaient convaincus que c'était la bonne solution et qui peut-être aujourd'hui le regrettent. Là aussi, nous en sommes témoins dans nos maternités. Ils pensaient que c'était la seule solution et peut-être que des fois, ils ont du mal aussi à se pardonner d'avoir poussé leur femme à avorter. Peut-être qu'ils prennent conscience aujourd'hui du drame que de l'avortement, des blessures que ça peut laisser bien des années plus tard. Moi, je me rappelle encore d'une dame, il n'y a pas longtemps, de 80 ans, qui en parlait pour la première fois et qui en pleurait encore de cet avortement qu'elle avait caché. Voilà, donc vraiment, nous vous demandons de vous unir à notre prière et de confier à Marie et Joseph toutes ces familles qui sont touchées par ce drame de l'avortement et particulièrement ces pères dont on parle si peu et dont la Constitution ne parle pas. Et pourtant, ils sont là. Voilà. En tout cas, nous les portons dans notre consécration de petites sœurs et nous prions pour eux à chacun de nos temps de prière, matin, midi, soir. Et c'est vrai qu'en étant au service de la vie de la famille, au service de la mère, particulièrement, nous sentons aussi au service de ses pères. Et voilà, donc si certains d'entre eux nous écoutent, nous les assurons de notre prière.
Merci. Mes sœurs, d'être venues pour notre émission La Bonne Nouvelle de la Vie, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, c'était notre émission La Bonne Nouvelle de la Vie avec les sœurs des maternités catholiques. Vous étiez avec La Vocation de l'Homme. Avec Saint-Joseph, retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.